Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Aligre. Vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitania. Lusitania est une émission hebdomadaire sur l'actualité culturelle liée de près ou de loin à la lusophonie. Aujourd'hui au micro, Marlène Alves, à la technique, Armand Guéry. Lusitania reçoit aujourd'hui Carlos Pereira. Bonjour Carlos.
Bonjour.
Carlos Pereira, aujourd'hui vous êtes ici avec nous parce que la RTP internationale lancera le 15 juin, c'est-à-dire demain dimanche, une série de documentaires de 8 épisodes intitulée « Les parcours extraordinaires de la communauté portugaise en France ». Un travail produit par Aniki Media, que vous dirigez, un travail que vous avez produit et réalisé. Alors, Carlos Pereira, vous êtes journaliste. Et vous dirigez depuis 2004 le Luso Journal, le seul journal hebdomadaire franco-portugais édité en France, si je ne me trompe pas.
Oui.
Qui bientôt fêtera, bien sûr, ses 21 ans, septembre, si je ne me trompe pas aussi. Vous êtes également responsable des reportages qui se font toutes les semaines du programme Hora dos Portugueses, sur RTP1 et RTP International. Vous avez été, c'était le temps passé, animateur socioculturel et président du Conseil des communautés portugaises de France, le CCPF.
CCP. Juste CCP. Conseil des communautés portugaises, pas de France. Ah au niveau mondial, j'étais le président mondial de ce conseil.
D'accord. Vous avez fait partie aussi
du CCPF. Mais j'étais animateur
socioculturel à la CCPF.
À la coordination des collectivités portugaises de France, CCPF, effectivement.
Exact, c'est là que je vous ai connu, d'ailleurs.
Exactement.
À l'époque, vous avez créé aussi le Festival de théâtre portugais en France et fait venir, d'ailleurs, à Paris, des grands groupes de musiciens, des musiciens tout simplement aussi, qui ont fait... plusieurs concerts grâce à vous. Vous faites aussi partie de SEDJ, l'Association pour le développement économique et social, etc., etc. Je ne vais pas faire tout ça parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Donc, merci d'être aussi avec nous. Avec tous ces palmarès, la première question que j'ai envie de vous poser est pourquoi, à l'époque, en 2004, avoir créer le Luso Journal. Qu'est-ce qui vous a amené à le créer?
Juste un petit détail, il n'est plus un hebdomadaire, il est un quotidien maintenant, il est un quotidien digital.
À l'époque, c'était un papier.
Mais quand on l'a créé, c'était un papier, c'était un hebdomadaire. Alors pourquoi? Parce qu'on est une grande communauté portugaise en France.
C'est vrai.
On estime à peu près à 1,5 million, à peu près. Alors, ça fait beaucoup de monde. Ici, on rajoute à cela les Brésiliens, les Cap-Verdiens, les autres pays lusophones, et aussi les Français mariés à des Portugais ou à des Portugaises, des lusophiles, des Français qui s'intéressent au Portugal. Alors, ça fait un univers énorme. Il n'y avait pas de journal réservé à l'information sur cette communauté-là. Il y avait quelques journaux mensuels, et donc, étant mensuel,
quelques revues aussi.
Quelques magazines aussi.
Très intéressant.
Mais étaient, on ne fait pas de l'information avec un mensuel. On fait du reportage,
des
articles de fond, des grandes interviews. Et nous avons décidé de travailler l'information. Et l'information, c'est tout de suite, c'est immédiatement, c'est... Donc, en Europe, il n'y avait pas d'hebdomadaire portugais à part au Luxembourg. Il est vrai qu'au Luxembourg, la communauté portugaise représente autour de 25% à peu près de la population. Mais ça fait quoi? Ça fait 150 000 Portugais. En gros, le Luxembourg, c'est un petit pays. Sans être... péjoratif. Enfin, voilà, c'est un petit pays. Donc ici, il y a 1,5 million de Portugais, il y a de quoi faire un journal. Donc, on s'est dit, on va le faire, ce journal. Et on a créé un journal qui existe encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est donc un quotidien. Chaque jour, on donne énormément d'informations sur la communauté portugaise de France, illusophone, illusophile.
Et pas seul, vous n'avez plus... Enfin, vous avez quand même quelques papiers, quelques journaux en papier, mais c'est
non,
surtout...
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
C'est là, fini après, complètement.
Depuis quelques années maintenant, on a complètement quitté le journal papier. Sur le c'est journal papier, numérique. On avait à peu près 20 000 lecteurs, 30 000 dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on a 250 000 lecteurs, donc on n'a pas du tout envie de revenir au papier avec le coût que ça représente en plus.
Donc, et non, pas très écologique.
Et c'est pas très écologique non plus. Donc voilà, en associant tout ça, on a un journal assez dynamique qui parle uniquement des Portugais de France ou des lusophones de France. Et des rapports entre la France et nos pays lusophones respectifs.
Mais dans votre journal, il y a aussi pas mal de reportages par rapport à ce qui se passe au Portugal.
Si ça a un rapport avec la France. C'est toujours ça, c'est la règle. Et c'est ça, en fait, qui nous fait avoir autant de lecteurs. C'est qu'on trouve ici des choses qu'ils ne trouveront pas ailleurs. S'il y a un changement de gouvernement au Portugal, ça ne nous intéresse pas. Les gens ont cette information-là par d'autres
moyens.
Biais. S'il y a un match de foot entre Benfica et Sporting, ça ne nous intéresse pas. Ça mobilise beaucoup de journaux au Portugal déjà.
Ah,
qu'est-ce
oui.
que nous apportons de plus ? Rien. Mais par contre, si c'est un match entre Porto et le PSG, ça nous intéresse évidemment, ce lien entre les deux pays. Et ça nous intéresse de suivre ce que font les Lusitanos de Saint-Maur en foot, le Sporting de Paris en futsal. Ça, on les suit chaque semaine. Et si ce n'est pas chez nous, où est-ce qu'on peut trouver cette information ?
Mais pas seulement le foot, vous aussi, vous avez des reportages aussi d'autres événements sportifs. Hein.
Ah oui,
on ne va pas dire que les Lusojournal, c'est que
choses.
Du foot.
Non, pas du tout. Ça, c'est un mythe qu'on donne, un attribut aux Portugais. Ils aiment le foot. Et nous, on démontre qu'il y a d'autres sports, il y a d'autres choses. Et nous les suivons chaque semaine.
Alors, après avoir fait un petit bilan de ce qui est aujourd'hui et ce qui a été le Lusojournal, quel avenir ? Comment vous voyez l'avenir du Lusojournal ?
Alors, en restant digital déjà, ne pas revenir sur le papier, en gardant le bilinguisme, en fait. Nous écrivons dans les deux langues. Alors, il n'y a pas d'article répété. Si nous écrivons en français, c'est en français. En portugais, c'est en portugais. Mais nous partons du principe que nos lecteurs, ils comprennent les deux langues. Alors, il n'y a pas de règle. On peut avoir une journée où les articles sont tous en portugais et le lendemain, tout est en français. Ça sera un hasard. Il n'y a pas de règle. Chacun de notre équipe écrit dans la langue qu'il veut. Parfois, ça dépend de comment on se réveille, de quel côté on se réveille le matin. Mais il n'y a pas de règle.
Pied droit ou pied gauche.
Comme on veut. Et nous partons du principe que nos lecteurs comprennent les deux langues. Et ça, c'est une règle depuis le début.
Et votre équipe, elle est constituée de combien de personnes et comment ils sont ?
Alors, il y a il y a un noyau principal. Après, il y a des collaborateurs qui sont un petit peu en province aussi. Il y a un petit peu partout en province. Les Portugais sont partout.
Oui.
Il y a des collaborateurs qui... Enfin, sont payés à l'article ou alors ils ont un forfait chaque mois. Et après, il y a des collaborateurs, des bénévoles qui ne gagnent rien. Ce sont des anciens enseignants, ce sont des personnes qui aiment écrire, qui vont aux événements et qui aiment les décrire ensuite. Il y a beaucoup, on vit beaucoup grâce à ça. Et donc, on est une équipe qui parfois est de 50 personnes entre le noyau dur, les collaborateurs, et les bénévoles.
Mais écoutez, après ce ce petit résumé de Le Journal, on va écouter une musique. C'est Expansif Sol, c'est extrait du CD Soñador, et le morceau s'appelle Que Saudade. Expansif Sol, c'est un duo portugais qui mélange les hip-hop, les soul, les reggae, etc. On va l'écouter, puis on continue.
Très bien.
Se dia falar de ti é porque tu ficaste, tu marcaste. Se foi bom ou mal eu já esqueci e não me lembro mais de trocar as vogais. Sofre ao bater do tempo. Às vezes nem lembro para não ficar cinzento. O que é feito desses momentos? Não é no fado só, mas que saudade eu tenho.
Tudo muda, a saudade bate mais forte, mas também o tempo não ajuda. É a recordação, é a esperança do avesso. Foram tantas que algumas até me esqueço. A idade avançou, o tempo mudou. A verdade bate mais forte porque eu sei que quase tudo acabou. A inocência da irreverência, a ausência da existência, da aparência da mesma adolescência.
Bien sûr, à Ligre FM 93.1 et c'est l'émission Lusitania aujourd'hui avec Carlos Pereira. Après cette pause musicale Carlos Pereira, revenons à ce pourquoi vous êtes aujourd'hui avec nous. La série de documentaires de 8 épisodes intitulée « Les parcours extraordinaires de la communauté portugaise en France » qui sera diffusée à la RTP1 et RTP International. C'est ça ?
Oui, ça sera... Enfin, ça sera d'abord à la RTP internationale, c'est la chaîne publique portugaise, c'est l'équivalent de France Télévisions, mais la version internationale d'abord, et après, à un autre moment, ça sera programmé sur une chaîne nationale du même groupe, mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, c'est uniquement au niveau monde. C'est une série de 8 épisodes de 52 minutes chacun. C'est des grands formats. Et c'est sur la communauté portugaise de France qui a un parcours extraordinaire.
Voilà,
j'allais
vous poser la question. Donc, pourquoi ce mot extraordinaire ?
Parce
que là, la communauté.
Parce que c'est vrai, c'est une communauté. Alors, si on regarde le gros de la communauté portugaise de France. Ils sont arrivés dans les années 60, en général 70, au moment où il y avait une dictature au Portugal. Ils sont arrivés
même avant.
Ils sont arrivés ici parce qu'ils n'avaient pas de travail là-bas. Et en général, ils étaient analphabètes, ils étaient illettrés. Dans le gros des cas,
oui. C'est surtout la dictature qui ne permettait pas aux gens de s'épanouir.
C'était pas de leur faute s'ils étaient illettrés ou analphabètes. Mais ils sont venus ici, ils ont construit des empires, ils ont fait un parcours extraordinaire. Et leurs enfants, ils auraient pu leur dire faites comme moi, travaillez dans le bâtiment, et c'est tout. Ben non, ils les ont motivés à poursuivre les études et les ont fait faire des parcours extraordinaires, justement. Et donc, je trouve que c'est un cas de réussite, c'est un cas c'est un cas extraordinaire. Donc, on a beaucoup réfléchi à ce terme extraordinaire en disant pourquoi est-ce qu'on va dire extraordinaire ? Mais en fait, je suis en admiration face à cette communauté avec laquelle je travaille depuis longtemps. Je me dis il faut le faire, il faut montrer ce que c'est que cette communauté. Évidemment, je me rends compte aujourd'hui que 8 épisodes, c'est trop peu.
Peut-être qu'il y aura une suite.
Il nous faudrait au moins une cinquantaine pour montrer les différents domaines où les Portugais sont et comment ils se sont installés, comment ils ont fait des choses extraordinaires. Mais déjà, il y a ces 8 épisodes parce que ici en France, parfois, on ne se rend pas compte non plus de ce parcours. Mais au Portugal, c'est encore plus loin. Ça se passe en France, ce n'est pas là-bas. On nous voit peut-être une fois par an, si on nous voit. Sinon, on peut passer inaperçu aussi. Donc, il faut montrer au Portugal ce que c'est qu'une communauté comme ça. Mais à mon avis, il faut le montrer ici en France aussi. Donc, il y a une... méconnaissance, on dit que la communauté portugaise est une communauté invisible, elle est discrète. Bon, alors il faut la montrer, justement. Il faut, on n'a pas à la cacher. Ni ici, ni au Portugal. Puisque son parcours
de l'appeler deuxième catégorie.
Donc, nous ne devons pas les cacher, c'est un parcours extraordinaire. Et donc voilà pourquoi on a eu cette idée de réaliser cette série.
Qui commence dimanche.
Une série de documentaires. Le premier épisode, c'est dimanche, demain, sur les associations portugaises.
C'est les associations ou c'est les luso-descendants et politiquement...
C'est les associations, le premier épisode. Le deuxième, ce sera sur le Fado en France. Après, ça sera les Portugais et la politique, les Portugais et les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs portugais en France aujourd'hui. Après, il y a deux épisodes historiques, on va dire. Le premier, c'est si on cherche bien la première vague, grande vague de cette immigration portugaise, elle commence au XVIe siècle, avec les Juifs, par exemple. Les Juifs ont été expulsés du Portugal. Une partie est venue en France. Et ils ont fait un parcours aussi extraordinaire.
C'est vrai. Mais je reviens encore en arrière pour ces deux premiers épisodes qui sont les associations portugaises en France. Je croyais que c'était le deuxième épisode, mais bon, vous me rectifiez.
C'est le premier à être diffusé, c'est celui-là.
Voilà, vous me rectifiez. Et les loups de son descendant et la politique politiquement impliquée en France.
Alors, il y a à peu près 8 000 élus d'origine portugaise en France. Ils sont maires adjoints, ils sont conseillers municipaux, ils sont conseillers départementaux ou régionaux, ils sont députés. Alors, il n'y a aucun sénateur
pour l'instant.
Non, aujourd'hui, mais il y a des députés. Et on ne le sait pas, en fait. On ne le sait pas. Et donc, on dit de cette communauté qu'on est très bien intégré. Oui, mais qu'on a gardé un contact énorme avec le Portugal. Et donc, on voit ces gens que sont maires en France ou qui sont députés en France et que défendent la France, c'est leur pays aussi, mais qui ont un lien fort avec le Portugal, ils arrivent à faire des jumelages avec les villes portugaises, arrivent à faire des échanges.
Des échanges culturels.
S'intéressent à leur culture d'origine aussi, et qui disent, oui, on peut être les deux, et alors, où est le problème? Il n'y a pas de problème. On peut avoir un drapeau français devant
accroché dans
sa veste, mais aussi un drapeau portugais. Et ça n'enlève en rien le lien et l'affirmation culturelle, identitaire de ces Français ou de ces Portugais, en gros. Ils sont les deux. Donc voilà ce que nous voulons montrer. Alors évidemment, on n'a pas interviewé 8000 élus. On en a choisi une dizaine. Et dans cette dizaine, on raconte un petit peu l'histoire de tout le monde. Comment il y a eu ce déclic d'arriver en politique comment on peut vivre cette implication citoyenne sur les deux pays, en deux pays en même temps. Donc voilà, c'est en gros, c'est les sujets que nous abordons. Et sur les associations, c'est pareil. Il y a 900 associations portugaises en France, à peu près. On n'a pas pu interviewer la totalité, évidemment. On a fait un choix. Et avec ce choix de, je ne sais pas, une dizaine, on raconte une histoire. Après, ça s'applique à toutes les autres
associations. Alors, pour parler d'association, moi, je vais vous passer une pause musicale avec l'association Gaivota, de laquelle Marie-Jo, qui est chanteuse de fado et également présidente de cette association Gaivota, va nous interpréter Fado Gaivota avec Dan Inger, qui lui, il est chanteur et guitariste franco-portugais aussi.
Très bien. Le deuxième épisode, c'est sur le fado, justement.
Exactement.
Il y a un fado portugais, enfin un fado, c'est toujours portugais, il y a un fado en France, à Paris essentiellement et à Lyon.
Ah, oui.
Mais il y a aussi un petit peu à Dijon et à Strasbourg, on n'a pas été par là, mais il y a un épisode qui est, j'en suis presque sûr, celui qui va plaire le plus, puisque c'est chantant, ça chante, politique c'est plus lourd, quoi. Mais là, ça chante et c'est un très bel épisode, je pense, sur le fado. Il y a un fado portugais, on peut écouter du fado en région parisienne. Et Marie-Jo Henriques,
elle fait la promotion
de.
Surtout des jeunes. Des
Exactement.
Jeunes chanteurs de fado. Donc on va l'écouter, c'est elle qui chante dans cette Fado Gaivota avec Dan Inger. On l'écoute tout de suite.
Nota, nota, construíste o teu ninho na cidade sem que ninguém te sentisse. Ficaste assim sem idade.
Pouco a pouco, lentamente, bico encerradas, notas diversas trinando por ti foram semeadas.
Gaivota que tens a ti, para sempre o fado ligado. De onde vens, para onde vais, tens teu destino marcado.
Lisboa citou o viajante perdido, como do fado gostou, guardou-o como amigo.
Fora das tuas fronteiras, para longe o fado levaste, pois ele não tem barreiras e assim me conquistaste.
Teu destino marcado. Gaivota tens a ti, para sempre o fado ligado. De onde vens, para onde vais, tens teu destino marcado. Gaivota tens a ti, para sempre o fado ligado. De onde vais, para onde vais, tens teu destino marcado.
Bien à l'écoute de l'émission Lusitania et c'est sur Radio Ali 93.1 et avec nous Carl Spreira. Donc on a parlé un petit peu de ces premiers reportages, les associations portugaises et les Lusos descendants et la politique, l'univers du fado. Vous m'avez dit que ça va être la super émission. Donc on va continuer à parler des autres documentaires que vous avez réalisés. Il y a aussi le dynamisme des empresarios portugueses en France. Le dynamisme des empresarios portugais en France.
Des entrepreneurs portugais.
Des entrepreneurs, ouais. Oui.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs portugais qui ont créé leurs affaires, leurs entreprises. Et j'ai voulu aussi donner cette idée-là de que... ils sont connus pour être les maçons et les femmes des ménages, et finalement ils ont des grandes entreprises. Parfois il y a un grand dynamisme entre et surtout entre les deux pays, les échanges entre les deux pays. Si on fait de la richesse en France, parfois ils vont faire aussi de la richesse au Portugal, et donc j'ai voulu raconter ça. Et dans les plusieurs domaines, hein, il y a un producteur de vin de Bordeaux qui est un des 5 plus grands producteurs de Bordeaux. C'est un Portugais. Il y a la liste, les 300 entreprises les plus grandes en France. Il y a un Portugais à créer son entreprise. Il y a des gens qui travaillent le marbre, par exemple.
Dans la communication.
Qui travaillent la communication, les vignes.
Dans l'informatique aussi.
Il y a beaucoup de monde à travailler dans des domaines les moins prévus. J'ai voulu rendre compte de ça.
Les mettre en valeur.
Les mettre en valeur et de montrer une réalité, en fait. C'est pas... Alors, selon la Chambre de commerce et industrie franco-portugaise, il y a 54 000 à peu près entreprises portugaises en France. Alors, c'est quoi une entreprise portugaise? C'est dirigé par un Portugais, peut-être, ou créé par un Portugais. Après, les entreprises, elles sont françaises, évidemment. J'ai beaucoup travaillé sur la... la transmission, en fait. Les Portugais qui, à un certain moment, ont fait une entreprise, ils ont créé, et maintenant, c'est leurs descendants qui les reprennent. C'est le cas de Canel, un producteur de pastéis de nata.
Très bon
pastéis de nata. Aujourd'hui, c'est la fille, c'est Sandra, qui a repris la société. C'est aussi Alfim. Il faisait des tapis roulants. Aujourd'hui, ils ont fait les tapis roulants des aéroports de Paris, les centres olympiques en 2025. Ils ont fait ça. Alors, c'est leurs enfants aujourd'hui qui gèrent l'entreprise. Donc voilà, j'ai travaillé aussi cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, c'est comment ils investissent au Portugal et comment ils sont vus au Portugal pour investir. Ils ont du mal parfois à investir au Portugal. Ils ont fait leur société ici. Ils connaissent bien leur segment de marché ici. Ils sont moins à l'aise au Portugal aujourd'hui quand ils rentrent. Ils ne connaissent pas les mécanismes. Ils ont du mal à comprendre. Et ça, j'ai suivi aussi. J'ai voulu le montrer.
Et quand ils investissent au Portugal, est-ce que les personnes, les chambres de commerce là-bas, les politiciens, parce que voilà, les mairies, etc., les voient d'un bon œil ?
Et oui, évidemment. C'est ça, parce que évidemment, oui. Si on va investir quelque part, on va investir, on nous voit d'un bon œil. Mais il y a, par exemple, un des entrepreneurs que j'ai interviewé qui me dit oui, alors on met beaucoup de temps à avoir des licences. Il voulait construire un immeuble au Portugal. Il a dit alors voilà, j'allais héberger X personnes. J'ai demandé les licences de construction. En fait, il a eu beaucoup de temps à les obtenir. Il les a obtenus et c'était le Covid. Donc, il a dit, je ne peux pas construire tout de suite. Mais il avait un an pour commencer à construire. Et comme il n'a pas commencé à construire, eux, ils ont dit, bon, ne vous inquiétez pas, on vous enlève la licence, mais on vous la donnera après facilement. Et quand il est revenu une deuxième fois en disant, alors voilà, on n'a plus le Covid, je vais commencer à construire. Ils ont dit, alors oui, mais on va reprendre la procédure. On reprend la procédure et ça peut durer jusqu'à un an. Il a dit alors au revoir, merci, à la prochaine. Il est reparti, il n'a pas construit. Donc voilà, ils racontent un petit peu ce qui, au fond, est drôle. Ils sont arrivés en France, ils ne connaissaient rien de la France. Et aujourd'hui, ils retournent au Portugal pour investir. Ils comprennent que ils ne connaissent rien non plus à la procédure au Portugal. Ils ont du mal, ils doivent être accompagnés, etc.
Bon, on va partir encore en musique, et cette fois-ci encore en fado. Ça s'appelle Press, c'est Mathieu Domingues. C'est un fado écrit par Pedro Homem de Melo, qui évoque la nostalgie du pays, les paroles qui soulignent l'attachement profond à cette terre natale qu'on a tous. Et c'est une des découvertes de l'association Gaivota encore, dans ces rencontres musicales qui ont lieu tous les mois. Donc on va écouter.
Et c'est un des plus jeunes chanteurs
très belle voix
de fado ici en région parisienne.
Oui, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'étais enthousiasmée. D'accord. Donc on va écouter Mathieu Domingues et le morceau Presse.
Talvez que eu morra na praia, cercado em pérfido banho, com toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Em noite fria, sem lua,
toda a gente. Talvez que eu morra entre grades, no meio de uma prisão, e que o mundo além das grades venha esquecer as saudades que roem o meu coração. Em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal.
On vient d'écouter donc Mateus Domingues avec le morceau Presse, un fado écrit par Pedro Homem de Melo. Alors on va continuer avec Carlos Pereira, bien sûr sur Aligre FM 93.1. L'émission Lusitania, et les reportages que vous avez faits, les Portugais dans la résistance française. Alors, avant que vous nous parliez un petit peu de ces reportages, je voulais lire un petit mot de Manuel Dias Vaz, vice-président délégué du comité Sousa Mendes, dans lequel il décrit un petit peu, peut-être, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu les documentaires, ce que vous avez fait. Il dit le suivant. Après la fin de la guerre, les rôles des étrangers étaient volontairement minimisés, voire ignorés. Concernant les cas des Portugais, il a été complètement occulté en France et surtout au Portugal par la dictature de Salazar. C'est vrai que beaucoup des étrangers se sont ainsi aussi engagés dans la résistance française et beaucoup ont été aussi déportés dans les camps nazis, hein.
Oui. Moi, j'avais travaillé sur la Première Guerre mondiale déjà. Et déjà sur la Première Guerre mondiale, on me disait la même chose. Au Portugal, on disait on a voulu effacer cette participation portugaise à la Première Guerre mondiale. Pourtant, c'était très officiel. Les Portugais ont participé à la Première Guerre mondiale. Comme j'avais fait déjà un documentaire sur la Première Guerre mondiale, je n'ai pas voulu refaire un documentaire sur la Première Guerre mondiale. Mais je savais que la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une participation portugaise. Pas le pays, évidemment, le pays a été neutre. Salazar, notre dictateur, n'a pas voulu, il a certainement eu du mal à choisir entre ses deux principaux partenaires, aussi bien la France que le Royaume-Uni. Et d'un autre côté, ses admirateurs, notamment le nazi Hitler. Donc, il a dit, nous, on est neutre. Et comme le Portugal était neutre, il n'y avait rien à savoir. Bah, circuler, il n'y a rien à voir. Et finalement, nous avons compris qu'il y a beaucoup de Portugais qui ont été impliqués. Pourquoi ils ont été impliqués? Premièrement, il y en a eu beaucoup qui sont venus pour la Première Guerre mondiale.
Et qui sont restés.
Ils ont combattu. Ensuite, et en France, ils ont découvert quoi? Ils ont découvert un pays intéressant, mais surtout beaucoup de femmes. À cette époque-là.
Oui, ils sont restés.
Et donc, ils étaient là, ils ont dit, bon, bah, je reste. Ils sont restés en France. Alors qu'à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont retrouvé quoi? Ils se sont retrouvés face au même ennemi. Alors, leurs enfants sont partis, ils se sont engagés dans la France, dans la guerre, eux, ils étaient trop âgés déjà, ou déjà, ils ont rentré en résistance. Ils ont fait des petits actes de résistance. Et ça, il y en a énormément. Pas forcément uniquement les Portugais, il y en avait un peu tout le monde. Couper des câbles, de remettre, afin de passer des armes, etc. Alors, il y a eu beaucoup de Portugais là-dedans. Après, il y a eu la guerre civile espagnole, avant la Deuxième Guerre mondiale, et beaucoup de Portugais sont venus combattre en Espagne, et quand il y a eu la retirada, ils sont venus où ? Ils sont venus dans la France. Ils sont venus en France, le sud de la France. Et donc, j'ai été visiter donc, le camp de Gourse, le plus connu, et par là, on passait 900 quelques mille, presque 1000 Portugais. Donc, il y avait aussi beaucoup de Portugais qui sont venus via la guerre civile espagnole et qui ne sont pas rentrés au Portugal, sinon ils allaient en prison.
Ah, oui.
Et donc, ils sont venus en France. Tout de suite après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et eux, ils se sont engagés aussi pour la France. Alors, à la Légion étrangère, Légion étrangère, ou alors en résistance, etc. Il y a donc beaucoup. Il y a eu les immigrés aussi, qui sont venus entre les deux guerres, puisque le Portugal ont toujours immigré, mais pas vers la France. Ils immigraient vers le Brésil, l'Uruguay, Venezuela, l'Argentine, etc. Vous connaissez bien l'immigration vers le Venezuela.
Eh bien, oui.
Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu les militaires, mais il y a eu les gens qui sont venus travailler les champs, les usines de guerre, en fait.
Bien sûr.
Ils sont venus travailler. Ils ont dit, on peut ne pas traverser l'océan et aller vers le Brésil, on peut aller juste à côté en France. Ils nous aiment beaucoup, ils nous ont accueillis les bras ouverts. Et donc, il y a eu 30 000 Portugais qui sont arrivés entre les deux guerres, ici en France. Et donc, ils étaient là. Et à un certain moment, la France et l'Allemagne ont signé un accord. Donc, en disant, on vous donne 3 ouvriers et on récupère, nous récupérons un militaire, prisonnier. Et ces 3 ouvriers, c'était qui ? Eh bien, c'était des étrangers, en fait.
Oui,
et donc, beaucoup de Portugais sont passés par là. Il y a eu aussi d'autres raisons. Les Portugais ne pouvaient plus envoyer l'argent là-bas au Portugal. Et l'Allemagne a communiqué sur ça, en disant, venez travailler chez nous, on a besoin, et vous pouvez envoyer votre argent à votre famille. Il y en a qui ont été volontaires. Et donc, moi, j'ai retrouvé un petit peu ces raisons-là, mais aussi, j'ai retrouvé les Portugais fusillés à Arras. Il y en a au moins 2. Ils ont été fusillés. On a été dans les lieux où ils ont été fusillés avec leur famille, leurs descendants. On a eu des Portugais déportés.
Oui, beaucoup.
Ils étaient dans les travaux forcés ou dans les camps de concentration. Et donc, on a montré que, oui, le Portugal était peut-être neutre, mais les Portugais étaient beaucoup, ont été impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est un sujet qu'en France, on ne sait pas.
Et au Portugal
non plus.
Encore pire.
Au Portugal, c'est un sujet récent. Il y a 3 ou 4 historiens depuis 5 ou 6 ans en train de travailler sur ça. Donc voilà pourquoi j'ai voulu aborder cet épisode-là, puisque ça implique ces Portugais qui sont en France. Les Portugais ne sont pas arrivés en France dans les années 60, comme ça, par hasard, tout seul. Il y a eu un parcours déjà. Il a commencé beaucoup plus loin.
Avant. On va écouter José Mário Branco et le morceau Ronda do Soldadinho.
Très
on
bien.
Écoute. José Mário Branco et Ronda do Soldadinho.
Soldadinho de chumbo não era como era o soldadinho. soldadinho, um menino lindo que nasceu num roseiral. O menino lindo não nasceu para fazer mal. Menino cresceu, já foi à escola de sacola. Um e dois e três, já sabe ler, sabe contar. Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar. Vai gado guardar, já vai lavrar e semear. Um e dois e três, era uma vez um soldadinho de chumbo, não era como era o soldadinho. Menino cresceu, mas não colheu de semear. Os senhores da terra o mandam para a guerra morrer ou matar. Mas o soldadinho percebeu que esses senhores mandavam a guerra contra os seus irmãos de cor. Soldadinho lindo, és também trabalhador. Viras a espingarda contra o teu explorador. Um e dois e três, era uma vez um soldadinho de chumbo, não era como era o soldadinho. Dancemos, meninos, a roda no roseiral, que os nossos soldados libertaram Portugal. Soldadinho lindo, és o rei da nossa terra. Vais lutar agora para acabar com essa guerra. Soldadinho lindo, és o rei do nosso povo. E contigo vamos construir um mundo novo. La 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 la. Soldadinho lindo, és o rei do nosso povo. E contigo vamos construir um mundo novo.
Alors, on vient d'écouter José Mário Branco, Ronda do Soldadinho, après avoir parlé de la résistance des Portugais ici en France. On va passer à un autre épisode de votre série de 8, qui est la contribution des Juifs portugais au développement de la France. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors là encore, on est parti des idées préconçues en disant, voilà, les Portugais sont catholiques.
Okay. Eh ben non.
Mais finalement, il y a eu beaucoup de Juifs au Portugal. Il y en a eu qui sont venus, ils étaient en Espagne, ils ont été expulsés, ils sont venus au Portugal. Ils sont restés un siècle au Portugal. Et après, ils ont été expulsés aussi du Portugal. Ils sont allés un petit peu partout, en 1536.
Ah, d'accord.
Ils ont été expulsés du Portugal. Et une partie est venue en France. En France non plus, on ne pouvait pas être juif à cette époque-là. Mais le roi Henri II a dit, ok, vous pouvez rester à Bordeaux et à Bayonne. Vous ne quittez pas l'Aquitaine, puisqu'il fallait développer Bordeaux.
Oui, c'était une marée, enfin c'était des terres pas très...
Bordeaux avait voilà. été anglaise à oui, un certain oui, moment, oui. Avec le mariage de Léonore. Et voilà, il fallait dynamiser. Ils ont dit, tiens, ceux-là, ils ont de l'argent, ils investissent, ils travaillent bien, on va les accueillir, ils vont développer Bordeaux. Et puis petit à petit, ils sont venus sur Paris et après ils sont... sont allés
même
partout.
Il y
a la Révolution française, et ils ont obtenu avant tout le monde les statuts de citoyens. Et après, les autres juifs aussi ont obtenu le même statut. Mais au départ, c'était uniquement les séfarades, les portugais, espagnols. Et donc, ils ont construit une synagogue à Paris. Encore aujourd'hui, on l'appelle synagogue portugaise de Paris. Une à Bordeaux, une à Bayonne. Et donc, j'ai visité les trois. J'ai rencontré les communautés de chaque
région.
Communauté. Mmh. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas ou que je connaissais très mal. Il y a eu beaucoup de juifs connus en France. Il y a les frères Perrère, ils ont un boulevard à Paris, ils ont construit la moitié de Paris, etc. Mmh. Les chemins de fer, les
termes,
etc. Mais il y avait aussi Pierre Mendès France, qui était aussi d'origine portugaise. Il y avait Montaigne, il y avait Georges Mandel. Il y a énormément de monde qui vient de cette communauté-là,
diaspora
juive portugaise. Et d'ailleurs, on les appelait la nation portugaise en France, même si une partie était espagnole. Mais ils ne s'appelaient pas la nation espagnole, ils s'appelaient la nation portugaise. Ils avaient un pouvoir énorme. Alors moi, j'ai visité des lieux qui ne sont pas connus comme étant des lieux portugais. Il y a un cimetière portugais à Paris, rue de Flandre. Un cimetière portugais, je me disais, il n'y a pas de cimetière portugais à Paris. Finalement, oui, il est dans une cour de plusieurs immeubles autour, etc. Et voilà ce cimetière-là, il faut demander la clé, etc. Le premier cimetière à Bordeaux, jusqu'à trouver la... Je lis un jour dans la presse, une femme rabbine a été ordonnée en France pour la première fois. Et c'était Iris Ferreira. Tiens, c'est encore une portugaise. Donc je rentre en contact, puis je l'ai perdu de vue et je l'ai retrouvé. J'avais déjà le document presque terminé. J'ai dû la voir et l'interviewer vite fait. Il a rajouté à la fin. Donc en fait, elle a changé de sexe et aujourd'hui, c'est Josué Freire. C'est le premier rabbin transgenre en France. Il est d'origine portugaise. Il explique comment il est devenu rabbin et tout son processus.
Donc, cet reportage très intéressant qui s'appelle « La contribution des Juifs portugais au développement de la France », on va l'avoir... au mois de juillet, si je ne me trompe pas.
Oui, en juillet.
Et nous, on va écouter une musique de Leo Smith qui s'appelle Divertimento. C'est un ensemble, c'est une musique à quatre mains. C'est une œuvre emblématique qui met en lumière le compositeur Leo Smith, qui est un musicien juif persécuté pendant la Seconde Guerre mondiale, déporté en camp d'extermination. La performance est de Eva Viegas, qui est une pianiste portugaise, et Dimitri Malignan, qui est un pianiste français. On les écoute. C'est presque fini, mais bon, on a écouté un petit extrait de la performance d'Eva Viegas et Dimitris Magilan, le divertimento pour piano à quatre mains de Leo Smith. Et Carlos Pereira, vos deux derniers reportages, très rapidement.
C'est sur les Portugais dans la culture ou dans le sport. Et là aussi, on démonte un petit peu les mythes. On pense que les Portugais aiment tous le folklore ou le fado. Oui, et finalement, j'ai montré que les Portugais sont partout, dans la danse, dans le théâtre, dans le piano, dans le... plusieurs domaines. Et il y a des Portugais partout, j'ose dire. Et dans le sport aussi, on dit que les Portugais sont des footeux et c'est tout. Le foot et rien d'autre. Et finalement, non, on trouve des Portugais dans le rugby. Et d'ailleurs, la sélection portugaise de rugby, elle a plein de louso-français ou de franco-portugais. Donc, dans le saut à la perche, on a rencontré le kayak, une médaille portugaise aux Jeux Olympiques, une médaille française aux Jeux Olympiques est une franco-portugaise. Alors voilà, j'ai voulu montrer ça.
Alors, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Merci, Carlos Pereira. Je rappelle que votre série de commentaires intitulée « Les parcours extraordinaires de la communauté portugaise en France » débute demain, 15 juin, et se termine le 3 août. C'est sur RTP International. Donc, on va se quitter. Je voulais juste rappeler que le lundi 16, il y a le concert de Lénine et Spock Febro Orchestre au Théâtre du Châtelet à 20h. Lénine qui a déjà été dans cette émission. Et sinon, restez à l'écoute des Radio Aligre, suis version originale avec Patrick, Léon et Mille. Un grand merci à Renaud Ponsin et Arnaud Guéry à la technique. Rendez-vous samedi prochain de 18h à 19h pour une nouvelle émission. Merci à tous et on se quitte avec la musique Poeta de Rua, Retratos, un morceau hip-hop. Rap.
Virei velho. A carne é fria. Conheço-o pelo consumo de bem mais noite que dia e pelo gosto do fumo. Levo nas veias da mão as cordas que já preparam a folga do coração a plantar no dia a ver. Não sei. Levo nas veias da mão as cordas que já preparam a folga do coração a plantar no dia a ver.
Yeah. Capítulo 1 lançado num arquivo. Vi a vida a duas cores, refleti pouco negativo. Passado, recordo muita fita pensativa que se cruzava em linhas de uma vida intuitiva. Quem errou, onde errei, eu cá estou com toda a garra e humildade de aceitar como sou. Quantas pessoas, quantas caras, quantos abraços, quantos amigos perdi, quantas saudades de lados. Eu lavo a cara, nunca pus protetor. Sou adulto para perceber onde está a luz e o humor. Reparto imagens com os meus sobre a minha rua. A mesma calçada que vi um amor. Não se cansa, as mesmas lojas, pessoas cumprimentam, pessoas que desde puto lembro e me sustentam de coisas familiares que eu levo e conservo a cada lado que vou, e isso é eterno e infinito. Viajo sempre como um arrepio, numa chuva conduzo com inspiração e brilho. Retratos como lágrimas viajo sobre os trilhos que eu formo e reajo pensativo. Uma cor, uma vida tentativa, perspectiva que me guia e ilumina. São os lados que eu dou à coragem para seguir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.